RFI.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Rossia, dobry wieczer. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous une nouvelle fois de Radio Foot International pour ce dernier numéro de la semaine avec, eh bien, cette affiche France-Belgique. L'une des demi-finales qui se disputera donc en Russie la semaine prochaine. La France a éliminé l'Uruguay alors que la Belgique se défaisait du Brésil. Il n'y a plus d'équipe sud-américaine dans cette compétition. Des Diables Rouges qualifiés aux dépens de la sélection de Neymar qui n'a pas réussi à revenir au score et repart donc plus tôt qu'en 2014. Un grand exploit des Belges impressionnant et grande déception pour les Brésiliens qui avaient de grandes ambitions dans cette Coupe du Monde. Les Bleus avaient auparavant éliminé la Céleste et au terme d'un match extrêmement maîtrisé, les Français ont franchi le mur qui paraissait infranchissable de cette défense uruguayenne, dépassée aujourd'hui par deux buteurs, Raphaël Varane et Antoine Griezmann. En face, Luis Suarez était transparent et Edinson Cavani leur a bien manqué aux Uruguayens. Et puis demain, les demi-finales qui se retrouveront, les demi-finalistes, pardon, qui se trouveront, eh bien, entre la Suède et l'Angleterre, entre la Croatie et la Russie. Et nous évoquerons aussi ces deux derniers matchs des quarts de finale de la 21e Coupe du Monde. Et pour évoquer cela dans notre studio, vous le réclamez à corps et à cri, Rémi Ngonoela. Bonsoir, Rémi.
Heureux d'être avec Annie Gasnier à côté et surtout que je sache que les auditeurs et les auditrices me revendiquent.
Oui.
Peut-être qu'il faudrait que je
passe à l'étude. Tous les vendredis, ils ont l'habitude. Et en face de vous, eh bien, il y a Xavier Barré.
Bonsoir Annie, moi j'allais pas laisser Rémi Ngonoela déblatérer toutes ces insanités tout seul.
Puis je vois que vous avez mis votre veste bleue, donc vous êtes aux couleurs.
Blanc, et puis blanc, rouge, puisqu'on est en Facebook Live.
Ah oui, ouais, oui. Ah voilà. Oui, je vois là. Ça leur a porté chance alors finalement. Et puis Marc Libra, il est en bleu. Bonsoir Marc.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous regardent.
Bah oui, on leur dit à tous bonsoir.
Exactement.
Radio Foot, c'est parti.
Le corner de Chadli, la tête, le but! La tête, non pas d'un joueur belge, la tête de Fernandinho, le remplaçant de Casemiro, qui trompe son propre gardien. Et voilà, eux, ils ont fait mouche. Les Belges, ce sont surtout les Brésiliens qui ont enfin fait mouche sur corner, mais du très mauvais côté, mon cher Alcio Ramalho, 13e minute de jeu. Et c'est la Belgique qui prend les devants 1-0 pour la Belgique ici à Kazan. La percée de Romelu Lukaku dans l'axe, Lukaku avec De Bruyne, plein axe, De Bruyne qui arrive, lancé, qui fixe à l'entrée de la surface de réparation le portier brésilien Alisson. La frappe, c'est limpide dans le petit filet droit, 2-0 pour la Belgique. Dans l'axe, légèrement sur le côté gauche, Paulinho Coutinho qui trouve et la réduction du score. Plein axe, Renato Augusto qui plonge dans la surface et qui trompe d'une tête maligne. Bien joué.
On est les Diables Rouges, tu vas voir comme ça bouge. Je te préviens mon gars, va y avoir des dégâts. On va montrer aux Russes qu'on n'est pas des gugus.
Et voilà, ils veulent montrer bien des choses aux Russes, ces Belges, ces Diables Rouges, dans ce match qui était commenté donc par Hugo Moissonnier et Elcio Ramalho. Les Belges sont en demi-finale d'une Coupe du Monde. Les Diables Rouges et leurs supporters attendaient cela depuis 1986. Ils attendaient de revenir à ce niveau international, une qualification dont rêve cette génération dorée de Belgique et qui a donc éliminé par 2-1 la bande à Neymar, Coutinho, Firmino, Marcelo. En Belgique, c'est donc la fête et on va rejoindre l'un des envoyés spéciaux de RFI de l'autre côté de la frontière française, là-bas du côté de Mons. Bonsoir Bruno Faure.
Bonsoir Annie et bonsoir à tous.
Alors racontez-nous Bruno, comment la Belgique et les supporters qui étaient autour de vous ont vécu cette victoire de la Belgique sur le Brésil.
Une soirée absolument surréaliste. Hein. Au début, alors certes on était là pour faire la fête, certes on y croyait un peu à cette victoire contre le Brésil, mais on se disait quand même que les Brésiliens étaient, disons, relativement favoris. Et puis, il y a eu une occasion pour le Brésil, là où on a eu peur, et puis au bout de 10 minutes, tout s'est dénoué, et là, ça a été comme dans un rêve. Hein. Les choses ont filé, ce premier but, puis ce deuxième, puis cette défense belge héroïque pendant la quasi-totalité du match. Ce but brésilien, c'est le doute, hein, c'est vrai, et le dernier quart d'heure totalement pressant. Là, j'étais vraiment au milieu des supporters sur cette grande place de Mons, pour imaginer, hein, c'est la même chose que la grande place à Bruxelles, c'est une place rectangulaire avec un écran géant en quatre parties au milieu de la place. Tout le monde était agglutiné et les gens se serraient les uns contre les autres parce que vraiment, il y avait un stress. On se disait, c'était pas possible, hein, d'avoir fait tout ça, d'avoir marqué ces deux premiers buts et de se faire rejoindre par les Brésiliens, et finalement le soulagement. Et alors là, ça a été, je peux vous dire, au coup de sifflet final, vraiment un délire total, des cris, des chants, les fumigènes. D'ailleurs, ça continue là.
On les entend.
Au moment où je vous parle, la grande place est encore complètement bondée. Oui, évidemment, en Belgique, on boit des bières, hein, quand on gagne.
Bon, ben, on vous laisse faire la fête avec eux, Bruno Faure. Et alors, merci.
Alors, juste quelque chose, Annie, vous avez parlé de 1986. De cette demi-finale qu'ont disputé les Belges à l'époque lors du Mondial mexicain, et ben les gens s'en rappellent encore. On voit des maillots belges avec derrière Mexico 86. C'est vraiment la référence pour ce pays d'un point de vue footballistique. Il y a vraiment un sentiment d'une renaissance de ce football belge avec cette génération qui est arrivée aujourd'hui à maturité. Après tant d'années difficiles, tant de divisions à l'intérieur de cette sélection nationale. Et aujourd'hui, on a enfin le sentiment d'une cohésion au sein de cette sélection belge, grâce beaucoup aux sélectionneurs et grâce à la maturité des...
Oui, des joueurs qui arrivent à maturité, puisqu'on les a vus à peu près la même équipe en 2014 déjà à la Coupe du Monde au Brésil, et on les avait vus aussi pendant l'Euro. Merci beaucoup Bruno Faure d'avoir été en direct avec nous. J'imagine que vous allez continuer à partager la joie des Belges du côté de Mons. Messieurs, ce match et cette élimination du Brésil, Rémy Nguno, c'était une élimination, je ne sais pas si elle était prévisible, mais en tout cas on a vu dès le début du match que les Belges avait pris les affaires en main différemment du match contre le Japon. Hein.
Il n'avait pas pris les affaires en main. C'est que le Brésil a offert aux Belges les affaires en main, parce que ce sont quand même les Brésiliens qui se créent les premières occasions.
Exact.
Comme par exemple, vous vous rendez compte quand vous avez quand même...
Ils auront beaucoup raté ce soir, les Brésiliens.
Oui, hein. C'est la preuve. J'ai toujours dit, le championnat chinois ne trompe pas. Paulinho était souvent couvert parce qu'il y avait Casemiro. Aujourd'hui, on a vu son véritable niveau.
Casemiro ne jouait pas, il était suspendu. Hein.
Et c'est de là que ça part. Pourquoi ? Parce que l'entraîneur belge a compris que là, avec cette équipe du Brésil, il devait miser sur la puissance du milieu de terrain. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait entrer celui qui pouvait donner cet impôt-là, Fellaini, qui a 1m91. Et il savait très bien que celui-là va faire face à quelqu'un d'autre qui est poids mouche, poids léger. C'est qui ? C'est Fernandinho. 1m76.
Et c'est celui qui en plus met le but contre son camp.
Pour 66 kilos. Et à côté de lui ou devant lui, c'est lui qui est son adversaire direct. C'était qui ? C'est bel et bien celui qui a 1m91 et oui, qui savait très très bien comment est-ce que ça allait se passer. Résultat des courses. Le Brésil...
On ne peut pas résumer ce match qu'à des tailles et des poids.
Je t'ai dit une chose.
Oui,
une équipe.
Non mais je voulais un regard d'ensemble sur la prestation,
Rémi. Une équipe qui perd son milieu de terrain.
Ouais.
Ne peut pas... Le milieu de terrain représente ce qu'on appelle le cœur du jeu. Le cœur du jeu qui n'est pas alimenté. Et d'ailleurs, on a pu constater, par exemple, qu'il n'y avait pas de transition entre l'attaque et la défense, parce que le milieu de terrain était totalement
perdu. Mais à tel point qu'il fait trois changements à la mi-temps, l'entraîneur.
Il fait trois changements, et c'est là où on voit justement qu'il y a eu un véritable changement. Mais entre-temps, quand même, la Belgique pouvait bien planter quatre buts.
Ah oui, pour l'instant, ils en avaient marqué que deux.
On peut pas résumer
un point de vue général sur ce match.
On peut pas résumer
Xavier.
Ce match-là comme Rémy Ngono au taille et au poids de deux ou trois joueurs. Non, il y a eu un choix tactique très intelligent de la part de Roberto Martinez qui s'est effectivement adapté à l'adversaire pour jouer le contre, ce qui donne encore une fois l'avantage à l'équipe qui joue le contre. Ça nous promet un France-Belgique une sacrée partie de poker menteur. Il a effectivement renforcé son milieu avec Fellaini, avec Chadli, et surtout, il a libéré De Bruyne vers l'attaque, puisqu'en fait c'est Mertens qui est sorti et De Bruyne qui jouait comme troisième attaquant. Et on a vu le résultat, c'est De Bruyne qui a été beaucoup plus libre dans ses mouvements,
et qui a
énormément combiné avec
magnifique.
Lukaku et qui m'a un but superbe. Et à l'arrivée, c'est ça qui fait basculer le match, parce que le Brésil, lui, effectivement, Fernandinho est un peu moins costaud que Casemiro, mais c'est lui qui a récupéré le plus de ballons. Donc ça change pas grand-chose à l'arrivée.
La seule chose,
c'est que si on va regarder les statistiques, on va pas embêter nos auditeurs avec ça toute la soirée. Donc effectivement, Fernandinho a pas le même gabarit que Casemiro, mais il a récolté plein de ballons. La seule chose, c'est que l'utilisation du ballon devant, William fantomatique qui a été sorti effectivement à la mi-temps, vous le rappeliez Annie, Gabriel Jesus maladroit qui n'a pas marqué dans cette Coupe du Monde, Neymar qui a fait un peu moins de cinéma qu'à l'accoutumée, mais qui a pas été tranchant, à l'arrivée, c'est les Belges qui ont été les plus tranchants qui passent.
Juste pour ajouter quelque chose, comme il voulait.
Non, on n'ajoute plus, on en a assez entendu.
Les détails sont importants. Le but brésilien, c'est-à-dire le but que le Brésil encaisse, est donné par qui ? Par Fernandinho.
C'est un but contre son camp, c'est toujours malheureux.
Tu ne peux pas me dire ça, que
mais
là,
si, tu
il
vas
n'avait
pas, refaire
pas
l'histoire
un
du
adversaire.
Football,
il n'a même pas surveillé un adversaire. Il n'a même pas regardé là où il devait se positionner. Première des choses. Deuxième but de la Belgique. Qui est bouffé dans le duel ? Qui est ramassé par Lukaku ? Qui tombe ? C'est bel et bien Fernandinho, dont les deux buts viennent de lui. Donc si tu peux me dire qu'à partir de là, il ne faut pas regarder ceci. Et si tu me parles aujourd'hui que la Belgique a dominé au milieu de terrain avec celui qu'on appelle Casemiro au milieu de terrain. Et d'ailleurs, je peux vous donner une statistique. Sur les 20 derniers matchs du Brésil, jamais il n'y a eu de défaite avec Casemiro, mais qu'il est sorti et qu'on a mis Fernandinho, il y a eu défaite.
Il n'était pas là.
Le Brésil a plus perdu depuis 13 mois et la Belgique, elle n'a plus perdu depuis 2 ans. Donc encore une fois, c'est des chiffres qui veulent rien dire. Ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est ça qui est intéressant dans ce match-là, c'est que tactiquement, Roberto Martinez a su changer son équipe pour qu'elle soit plus performante que ce qu'elle avait été contre le Japon.
Marc, comment vous avez vu cette domination finalement de la Belgique, mais on a failli voir quand même une Belgique qui s'est soufflée en fin de match, un peu leur défaut.
Oui, mais je pense que cette équipe-là, elle a été très bonne du début jusqu'à la fin. Alors certes, on ne va pas revenir sur les changements que Martinez a mis en place, ils ont été très bien, mais aujourd'hui, quand on a un joueur qui s'appelle Eden Hazard qui est aussi fort, vous pouvez faire ce que vous voulez en
face. Ils étaient tous dans un bon jour aussi aujourd'hui.
Mais ils sont tous dans un bon jour, cette équipe
non, mais
belge.
L'autre jour, quand, par exemple, contre le Japon, hein, c'était le dernier match, c'était assez étonnant, leur non-prestation.
Non-prestation, ils gagnent 3-2, ils marquent 94e. S'il n'y a pas de prestation,
à la 69e.
3 buts en Coupe du Monde, pour moi, c'est le révélateur pour eux. Mm-hmm. Pour moi, il s'est passé quelque chose parce qu'il démarre le match.
C'est ce qu'on
demandait
hier.
C'est coolos, tout va bien. Finalement, encore une fois, quand vous avez un joueur qui s'appelle Eden Hazard, vous avez vu les accélérations de Hazard, de Bruyne, de Lukaku.
À chaque fois d'ailleurs, ça faisait carton jaune.
On parle des milieux de terrain ou des défenseurs, mais ils leur mettent 2 mètres à chaque fois. Donc là, on peut plus gérer, on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre qui on veut, Casemiro. Là, aujourd'hui, Hazard était au-dessus. Même en fin de match, on a l'impression, même Meunier, on a l'impression qu'ils sont fatigués. Ils ont su faire la différence. Quand ils ont fallu courber un petit peu les chines, ils se sont repliés très bas. Et c'est la phase où, comme par hasard, le Brésil s'est créé d'occasion. Mais autrement, cette équipe-là, si elle est capable d'attaquer et de performer comme ça, parce que Chadli a été un petit peu court, parce qu'il n'avait pas démarré la compétition, et ça a commencé un petit peu à pêcher. Mais cette équipe-là, elle est redoutable. Hazard, aujourd'hui, fait partie, pour moi, du meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Il est inarrêtable. Et Neymar n'a pas été au niveau, comme l'ensemble des joueurs. Par rapport au changement, de faire ce genre de choses rapidement, je pense que c'est suicidaire aussi. Ça montre une légère, de changer autant de joueurs comme ça d'un coup. Tout ça est très étrange. Mais après, encore une fois, je vous dis, est-ce que le Brésil s'attendait pas forcément à une telle opposition ? Est-ce que, voilà, en tout cas, je pense que la Belgique n'a pas volé sa victoire et surtout avec un grand Eden Hazard.
Un grand Eden Hazard, mais d'abord, on a vu aussi un grand Thibaut Courtois.
C'est Thibaut Courtois.
Parce que Thibaut Courtois, il y a moments où il a sauvé des ballons et il a sauvé des égalisations. Dès le début, d'ailleurs, les premières attaques et puis ensuite à la fin où évidemment les Brésiliens poussaient pour essayer de marquer. Écoutons-le, Thibaut Courtois, au micro de nos confrères de TF1 qui retransmettaient le match.
Ah, j'y crois encore pas. C'est un rêve d'enfance, comment on dit ça, que jouer une Coupe du Monde, jouer contre le Brésil, les éliminer, c'est fantastique. Et je crois que le match qu'on a fait, surtout le premier mi-temps, on était bien placés, ils avaient très dur. Et le deuxième mi-temps, bon, tu sais bien que c'était plus dur. On avait plus difficile de garder le ballon. Sur les dernières passes, il passait pas pour avoir encore une chance dangereuse. Mais bon, on a bien défendu. Je crois que j'ai sorti pas mal des arrêts. Bon, le but, c'est un peu dommage. Je crois que tout le monde est un peu mort.
Et oui, un peu mort, les Belges à la fin du match. Hugo Moissonnier, c'est vous qui étiez en direct sur RFI pour commenter ce match. Bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Hugo, ce naufrage du Brésil, en tout cas cette grande tristesse qu'on a vue à la fin de la rencontre, à aucun moment on a eu l'impression qu'il n'arriverait, quand ils ont encaissé les deux buts en moins de 30 minutes de jeu, on a eu l'impression qu'ils arriveraient à revenir.
Non, effectivement, on y a quand même un peu cru en fin de partie. Après la réduction du score, il y a quand même eu deux grosses occasions, une de Renato Augusto, une autre de Renato Augusto qui s'est présenté presque seul avec les buts grands ouverts. Il a trouvé le moyen de tirer à côté. Puis il y a eu Coutinho, un peu dans une configuration identique, qui a pu se retrouver seul face aux cages belges. Il a trop ouvert son pied et c'est parti dans les nuages. Et puis il y a eu cette frappe de Neymar en toute fin de match avec cette magnifique envolée de Thibaut Courtois. Mais c'est hormis ce dernier quart d'heure, effectivement, on a longtemps cru que les Brésiliens ne disputaient pas vraiment un quart de finale de Coupe du Monde. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le manque d'intensité, notamment dans les attaques, avec ce jeu qui penche caricaturalement côté gauche et qui est souvent très téléphoné. Alors ça passe quand il y a une magnifique inspiration d'un Neymar, ça a été rare aujourd'hui, ou d'un Coutinho, mais sinon ça a été très téléphoné. Et puis il y a un manque d'intensité sur les replis défensifs, ça passait comme dans du beurre sur les contre-attaques belges.
Oui. On parlait de...
On penche par rapport à Neymar. Neymar adore ce côté-là, avec Coutinho qui lui passe en dos, et on a dû voir Douglas Costa qui rentre pour voir un petit peu le côté gauche, mais leur jeu est tellement lisible, c'est-à-dire que les Belges se sont mis tranquillement en rangée, tranquillement, et c'est lisible, passe latéral, je crois que la possession doit être, je pense, pour les Brésiliens, mais ils sont
57-43.
Voilà, ils sont pas forcément très dangereux, et c'est lisible. Vous savez que Coutinho, il va rentrer sur son pied droit, vous calquez son pied droit, vous attendez, il a pas pu frapper, mais tout ça est très prévisible, c'est un petit peu dommage. Alors certes, Courtois a fait des arrêts.
Il fait quand même 9 arrêts. Il y a quand même 26 frappes brésiliennes.
Mais oui, mais
9
vous prenez les stats de l'Allemagne, comment ils ont frappé.
Mais je suis d'accord.
Ils sont à la maison depuis 15 jours. Donc à un moment donné, quand on n'est pas capable de faire la différence, mais dans le jeu, je crois qu'aujourd'hui la Belgique a mérité sa qualification.
Moi, je serais d'accord un peu avec Xavier Barré. Parce que je serais d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que si quelqu'un me dit aujourd'hui, d'ailleurs, Annie l'a signalé, les arrêts que Courtois fait, c'est incroyable, c'est insensé quand vous regardez ça. Donc, quand on me dit que...
Il y en a un insensé, c'est le dernier.
Ah non, mais il y a eu... Il fait neuf arrêts en début de match.
Qui est un arrêt exceptionnel. Là, c'est l'arrêt de la fin de match.
Tu me parles d'un arrêt de Lloris. C'est un arrêt. Ce mec, il te fait 9 arrêts.
C'est son rôle.
En quart de finale de Coupe du Monde.
Ça s'appelle un gardien de but.
Mais attendez, vous connaissez...
C'est son rôle.
Oui, mais on a vu que Fernando Muslera, lui, il n'a pas fait l'arrêt qu'il fallait.
Il n'a pas fait.
Donc, Thibaut Courtois, là, pour une fois, je suis d'accord avec Rémy Ngono. Les téléspectateurs peuvent en témoigner. Eh ben oui, sur ce sujet-là, moi, je pense que Thibaut Courtois,
c'est exceptionnel. L'homme du match. Et quand vous parlez d'Hazard, je peux vous dire que au niveau du match, moi j'ai plutôt vu un Lukaku qui a dérangé, perturbé toute la défense de telle sorte que les Brésiliens ne pouvaient pas oser même partir à la défense comme généralement ils font souvent avec Thiago Silva, avec Miranda qui se retrouve là. Non, il les a tous monopolisés et il a été terriblement bien sur le plan offensif et défensif. C'est l'homme qui donne le grand point de ce match-là. Donc c'est pour ça que je dis, oui, Hazard a fait de bons petits gris-gris, il a fait de bons petits démarrages, tout comme aussi, on peut bien apprécier De Bruyne qui a été assez bon, mais les clés, c'était les deux voûtes. La voûte de devant et la voûte de derrière, qui était Thibaut Courtois.
Hugo Moissonnier, une petite chose et puis on va vous libérer parce que vous êtes à la sortie des vestiaires. Celui qui entraîne cette attaque et qui avait le secret peut-être ce soir de toute cette dynamique, c'était aussi Thierry Henry, champion du monde il y a 20 ans et qui cette fois se retrouve avec les Belges et d'ailleurs se retrouvera face à Didier Deschamps.
Oui, Thierry Henry qui a déjà éliminé le Brésil en quart de finale, il sait ce que c'est. Peut-être qu'il a transmis quelques tuyaux à ses poulains. D'ailleurs, il avait marqué en 2006 lors de ce quart de finale victorieux de la France face au Brésil. Et c'est vrai que c'était une image assez frappante de le voir entraîner les joueurs belges pendant leur passer le ballon pour qu'ils effectuent quelques frappes lors de l'échauffement. Thierry Henry, il avait été question de lui déjà en conférence de presse. Hier, avant le match, des questions sur l'apport de Thierry Henry avaient été posées à l'entraîneur Roberto Martinez. Effectivement, il avait dit à quel point c'était très important d'avoir quelqu'un comme Thierry Henry et peut-être justement pour avoir cette application et cette détermination qui a vraiment, selon moi, fait la différence en faveur des Belges ce soir, qui ont davantage, je pense, dans l'application, l'intensité, disputé un quart de finale de Coupe du Monde que les Brésiliens.
Mais Hugo, pour compléter ce que dit Hugo, plus encore que Roberto Martinez, qui en sens Thierry Henry, c'est un peu normal, il l'a choisi, c'est son adjoint, c'est les attaquants belges qui disent du bien de lui. Oui. Et notamment Lukaku, qui explique comment Thierry Henry l'a fait progresser. Et moi, je me souviens effectivement d'un témoignage d'Alexandre Lacazette qui expliquait comment une discussion avec Thierry Henry, quand il s'était croisé à l'occasion d'une tournée de Lyon à l'époque à New York, l'avait fait progresser. Et comment Thierry Henry lui-même racontait comment une discussion à l'époque et un travail avec Ian Wright à Arsenal l'avait fait progresser dans sa recherche de la perfection. Et donc là, effectivement, on est dans de la transmission de vécu, de témoignage. Et c'est, on peut juste regretter, nous Français, que ce soit les Belges qui en bénéficient. Mais après, c'est la loi du milieu.
Oui. Marc, en plus, parce que cette équipe belge, on l'avait vu en 2014, où déjà elle portait pas mal d'espoir et elle ne va pas trop loin en Coupe du Monde. À l'Euro, pareil, on avait l'impression qu'il leur manquait quelque chose. Et là, on a l'impression que ce quelque chose, et notamment cette offense, cette vague offensive, disons, est très dynamique, ils l'ont trouvé.
Mais ils étaient très jeunes aussi à l'époque, donc cette équipe-là.
Sans doute. Ils progressent aussi chacun dans leur club, bien sûr, et en première ligue.
Exactement, la plupart des joueurs évoluent dans des grands clubs aussi. Quand on voit le rôle de Thomas Meunier, qui a été encore une fois très bon, et qu'on a du mal à le voir avec le PSG, mais ça, c'est un autre débat. Après, il faut se dire aussi que Martinez bénéficie du travail de Prudhomme, de Eric Gretz, de Wilmot qui a été fait, qui était un très bon travail. Et aujourd'hui, ils en tirent tous les conséquences. Donc aujourd'hui, cette équipe-là, je vous dis, elle a su accélérer quand il faut accélérer, elle a su faire la différence quand il faut le faire, elle a su souffrir ensemble. Un gardien de but est là pour arrêter les buts, comme a pu le faire Lloris. Ça, c'est tout à fait normal. Elle est bien équilibrée, elle est bien positionnée. Vous avez un chef d'orchestre, comme je vous dis encore une fois. Là, De Bruyne, on l'a souvent vu peut-être dans un rôle plus relayeur. Là, il était un ton plus haut. On a vu que ça marche aussi. On met Fellaini, quand on voit les stats de Fellaini cette saison, c'est pas forcément. Et puis on se rend compte que sur cette Coupe du Monde, à ce niveau-là, il a été très bon. Peut-être que face à la France, on changera, on repassera peut-être à un autre joueur au milieu de terrain. Peut-être on remettra Mertens et on redescendra De Bruyne. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est vrai que cette équipe-là, elle arrive au bon moment et au bon endroit.
On va écouter justement Eden Hazard, l'un de ce groupe offensif de l'équipe de Belgique. Et Eden Hazard évoquait eh bien, non seulement ce rêve qui commence à prendre forme, mais aussi la suite.
On vient d'éliminer le Brésil. Voilà une équipe qui a gagné 5 fois la Coupe du Monde. Nous, on a atteint qu'une fois les demi. Donc là, c'est la deuxième fois. Je pense qu'on est tous très contents avec le match qu'on a fait. Ça n'a pas été facile parce qu'il poussait à la fin jusqu'à la dernière minute. Mais on a réussi à tenir bon. Et voilà, maintenant, on a 4-5 jours pour bien profiter de ce moment entre joueurs, le pays tout entier, tous les supporters belges. Voilà, une petite pensée pour eux. Et j'espère qu'on va refaire ça dans 5-6 jours. Super content de jouer contre la France. Voilà, même si on sait que le match va être compliqué, je pense qu'avec le Brésil, c'était la meilleure équipe sur le tournoi, enfin surtout sur ce qu'ils ont montré en 8e et en quart. On va s'attendre à un gros match, un match compliqué, mais on a nos armes, on va jouer avec nos armes.
Alors, on va envisager après ce match face à la France, mais leurs armes, on les a vues ce soir et ça peut faire très mal, ces armes de la Belgique, Rémi.
C'est l'équipe la plus offensive, même pendant la phase des éliminations.
C'est ceux qui ont marqué le plus de buts. Hein.
Ils ont inscrit 14. Non.
Non, ils pardon. Ont, pour là, qualifié, là, dans la Coupe
oui,
du Monde.
Mmh. Même pour aller à la Coupe du Monde, ils étaient à 43 buts. Le Brésil suivait avec 41 buts. Sauf que ils ont aussi encaissé moins de buts que le Brésil. Le Brésil a pris 11 buts. Eux, ils ont pris 6. Et maintenant, quand je veux aussi regarder le côté de cette équipe-là, il faut se dire que, contrairement à ce que la Belgique faisait, aujourd'hui, beaucoup défendent. Comme j'ai d'ailleurs parlé de Lukaku ou bien de Eden Hazard. Et c'est très bien de me dire aujourd'hui que c'est le travail de Thierry Henry. Mais non. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu le travail de Mourinho qui demande aux attaquants de défendre? Je devrais quand même dire que la plus grande saison de Lukaku se passe actuellement avec Manchester United. Et maintenant, ceux qui me disent
que... qui est dans la même équipe,
et qui est dans la même équipe. Ceux qui me disent aujourd'hui que le football a changé, c'est eux qui me disaient que c'était le tiki-taka. C'est-à-dire qu'il fallait se faire les faces. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? La nouvelle technique, c'est celle de Mourinho. Les gens sont derrière, ils supportent ensemble. C'est facile quand les autres le disent. Et après, ils se lancent dans la contre-attaque. Toutes les équipes qui avaient la possession pendant cette Coupe du Monde sont dehors.
Oui, oui.
Toutes les équipes qui sont en contre-attaque, qui se projettent vite, et avec les hommes de Mourinho, sont en train d'aller devant. Donc, laisser la récupération avec Thierry Henry, c'est bel et bien Mourinho.
Oui, mais il y a aussi...
Je sais pas s'il faut s'en réjouir, Annie, mais moi, je voudrais quand même revenir sur un élément que vous évoquiez avec Marc Libra.
Un petit élément, parce que Antoine Grenier nous attend
pour
parler des Bleus.
C'est l'âge de cette équipe de Belgique. Elle a moyenne d'âge 27 ans et 6 mois. Or, quel est l'âge moyen des vainqueurs de Coupe du Monde?
28 ou 29, c'est ça? 28.
Non, c'est 27 ans et 5 mois. Donc, c'est l'équipe qui a effectivement, qui est le plus proche de l'âge moyen des vainqueurs de toutes les Coupes du Monde. Donc, effectivement, ça veut dire qu'elle est vraiment à maturité. C'est une équipe qui a su grandir, qui a su s'améliorer avec le temps, avec l'apport, effectivement, de joueurs qui ont des expériences dans différents clubs, des grands clubs, et qui a surtout, je pense, trouvé un esprit d'équipe qui manquait il y a 2 ans à l'Euro, et un petit peu aussi il y a 4 ans, même si c'était bien pour eux d'accéder en quart de finale, parce qu'ils revenaient en Coupe.
12 équipes avaient la moyenne d'âge de 25 ans et demi. Donc, si c'est le cas aujourd'hui, si ce n'est que ça, la maturité, ce n'est pas une affaire de ce qu'on peut appeler. Non, ce n'est pas la barbe ou l'âge qui font les sages. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont cet âge-là, c'est que, en réalité, ils ont un potentiel depuis de très, très longues années.
Non, pas depuis de très, très longues années.
Attends, tu sais quand même que...
Depuis 1986, ils n'étaient pas revenus à ce niveau-là.
La Belgique a raté toutes les phases finales entre 2002 et 2014, donc faut pas dire non plus qu'ils avaient un potentiel depuis
Voilà pour ce qui est de la Belgique. La Belgique qui a marqué 14 buts, donc pour l'instant c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts, et vous connaissez l'anecdote au pays que un réseau de produits électroménagers IFI, ceux qui vendent les télés, c'est
si
plus
vous
simple.
Si vous la gagnez, vous la remboursez.
Si les Belges marquaient plus de 10 buts, 15 buts.
Moi j'ai entendu, s'ils gagnent, ils remboursent toutes les télés en Suisse, en Belgique aussi.
Non, là c'est pas du tout ça, c'est des téléviseurs, si vous les aviez achetés avant le début de la compétition et que la Belgique arrive à marquer 15 buts, parce que c'est à peu près la moyenne d'une équipe, à ce moment-là ils rembourseraient les télévisions, évidemment, de ceux qui avaient acheté, pas maintenant, ceux qui avaient acheté avant, mais on n'y est pas encore aux 15 buts.
Dernière chose par rapport au match face à l'Angleterre, on leur avait dit qu'ils avaient laissé couler le match, les Anglais, et les Belges avaient dit nous on s'en fiche, on va gagner, on sait qui on va croiser, et même si c'est le Brésil, on n'a pas peur. Bravo à eux.
Ils avaient raison. Allez, direction les Bleus, parce que eux aussi, ils ont gagné leur match aujourd'hui.
Le coup franc tiré par Antoine Griezmann sur la tête. L'équipe de France ouvre la marque à la 40e minute. Attention à cette contre-attaque, la récupération de Paul Pogba, grandes enjambées. Paul Pogba, il s'approche, il va glisser sur sa gauche à Tolisso. Tolisso maintenant, le ballon pour Antoine Griezmann. La frappe de Griezmann, elle est tendue. Et but ! Et but de l'équipe de France ! Quelle erreur ! Quelle faute de main de Fernando Mousterra sur cette frappe d'Antoine Griezmann ! L'équipe de France mène 2-0.
Très heureux de la victoire.
On ne s'est pas ennuyé.
Moi j'avais parlé un 2-1, un 3-1 au début, un 2-1 au final, et voilà, on a fait un très très beau match.
C'est facile.
Vive la France, vive la France, on est en demi. Allez les Bleus.
Mardi on sera là.
Au
l'an 2000. Il n'y a rien de plus beau.
La victoire donc des Bleus du côté de Nijni Novgorod avec Antoine Grenier et Christophe Jousset et puis ses supporters dans un café de Paris là où se réunissent les gens pour assister à ce genre de match puisque c'est au milieu d'après-midi et que même si on travaille, eh bien on s'échappe pour aller voir le match. La France est donc en demi-finale de la Coupe du Monde pour la sixième fois de son histoire depuis 1958 en passant par 82, 86, 98 et 2006. Revoilà donc les Bleus parmi les quatre meilleures équipes du moment. Alors, cette victoire 2-0 contre l'Uruguay, c'était un match très maîtrisé. En tout cas, on va y venir, on va en parler. Mais d'abord, Antoine Grenier, vous êtes en direct avec nous. Bonjour. Bonsoir plutôt d'ailleurs.
Oui, bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Bonsoir ou bonne nuit, parce que pour vous, il est encore plus tard, vous êtes plus à l'est. Antoine, est-ce que vous qui étiez à la sortie des vestiaires entre là et Istra, où rentraient les joueurs, est-ce que ça a chanté, est-ce que ça a dansé, est-ce que il y avait une grande joie, ou un grand soulagement peut-être?
Bah c'est assez surprenant, Annie, parce que on pouvait s'attendre après une prestation comme celle de l'équipe de France, vous le disiez, maîtrisée, où les Français ont survolé les débats en se faisant un petit peu peur, mais sans trop se faire peur. On s'attendait à avoir une forme d'euphorie, un peu ce qu'on avait vu après le match contre l'Argentine. Et ben là, pas du tout. On a eu des joueurs qui sont arrivés, certes, avec le sourire, avec le sentiment du devoir accompli, mais pas forcément beaucoup plus, une joie raisonnable, on va dire, de l'équipe de France et surtout une impression de, voilà, on a gagné le quart de finale, maintenant on se concentre sur la demi.
On se concentre sur la demi. Alors, évoquons d'abord ce match avant d'évoquer la demi-finale, nous aussi, Xavier Barré. Ce match des Bleus, il a presque été surprenant, non, de maîtrise?
Moi, j'ai pas été surpris parce que depuis que je vois ces Bleus évoluer, je suis jamais inquiet. Je les trouve effectivement pas flamboyants, mais d'une grande maîtrise collective, d'une grande sérénité. Et ça l'a été encore contre l'Uruguay où là, vraiment, ils ont à aucun moment j'ai senti que cette équipe uruguayenne, il est vrai privée de Cavani, pouvait vraiment inquiéter les Bleus. Donc, ils ont une efficacité terrible puisque ils ont marqué sur leurs 6 derniers tirs cadrés, 6 buts. Voilà. Alors effectivement, c'est pas flamboyant. Il y a certaines personnes qui sont un peu déçues encore du style, mais à l'arrivée, ben, les Bleus sont en demi-finale.
Ultra efficace. Marc.
Moi, différemment, j'ai tremblé quand même. Dans les phases de poule, j'ai un peu tremblé quand même. Mais bon, après, c'est voilà.
Un peu tremblé.
On n'a pas été. On parlait de la Belgique. La Belgique, elle n'a pas tremblé. J'ai trouvé cette équipe bien en place, concentrée du début jusqu'à la fin. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France qui est capable de jouer de la première à la 94e ou 95e minute. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que je pense qu'on va arrêter avec, puisque je regarde beaucoup de choses, je suis beaucoup de choses. Il y a des débats sur Lloris. On se posait la question, Pogba, on se pose la question. Là aujourd'hui, il y a une équipe qui est établie, ça bougera plus. Au moins, c'est réglé. Giroud, il y a plus à.
Voilà, mais depuis le match contre le Pérou, on a l'impression de...
Ça bougera plus, sauf s'il y a un blessé ou un suspendu.
Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire, parce qu'on remettait souvent des joueurs. Là, Tolisso, vous savez, c'est du Deschamps. Là, c'est Matuidi qui va re-rentrer, mais c'est Tolisso qui a dépanné. S'il y a un joueur qui sort, ben, c'est l'autre joueur qui va prendre sa place. Il n'y a pas de superflu. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a vu une équipe qui a été capable de gérer du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas trouvé de faille dans cette équipe de France, qui a été sereine du début jusqu'à la fin. Je m'attendais pas forcément à ça. Certes, sans Cavani, c'est une autre équipe. Je pense que l'Uruguay s'est trompé de combat en voulant mettre des coups sur la première période entre Stuani et Suarez. Ils ont été, l'arbitre a été gentil parce qu'ils ont mis des coups à répétition. La France a failli péter un plomb à un moment donné avec Pogba et un petit peu Tolisso une ou deux fois. Finalement, ils se sont vite ressaisis. Donc, je pense que ça a été très bien mené du début. Et encore une fois, je m'attendais pas à ce genre de match. En tout cas, bravo aux Français. Ils ont été très, très bons. Vraiment.
Rémi, vous les avez trouvés comment, les bleus ou les blancs d'ailleurs aujourd'hui?
Bien, mais je ne me suis pas emballé et je ne m'attendais pas à moins bien que ça. Je le savais déjà. Pourquoi ? Parce que j'ai vu l'équipe d'Uruguay. Les gens oublient quand même, c'est-à-dire que quand l'Uruguay bat le Portugal, il concède 26 tirs. Et là, je me dis, ce n'est pas possible que cette équipe puisse tenir. Et surtout, j'ai vu à la 74e minute, quand Edinson Cavani est sorti. C'est là où ils ont concédé pratiquement 14 tirs, ce qui était terrible.
Dans le match contre le Portugal.
Dans le match contre le Portugal, ce qui signifie que si d'ailleurs ils sont passés là, c'était un véritable miracle parce qu'ils étaient, ils étaient déjà au bout du rouleau.
Et quand ils n'avaient surtout pas beaucoup de bancs en plus, c'était ça sûrement du côté de l'équipe d'Uruguay.
Et puis c'est ce que je dis aujourd'hui parce que la connexion entre Cavani, quand vous regardez par exemple cette équipe d'Uruguay, c'est pas Suarez, c'est Cavani. Regardez pendant les matchs éliminatoires. Cavani, il te claque les 10 buts sur les 15 rencontres. Sans faire tous les matchs. Et de surcroît, quand on arrive là, on se rend quand même compte que c'est lui qui doit le remplacer. Il s'appelle Stoani.
Oui, mais alors donc les Bleus. Les Bleus, ils sont retrouvés face à une équipe d'Uruguay finalement qui n'était pas assez, assez forte, c'est ça ?
Qui n'était pas forte.
Qu'on avait surcotée.
Elle était surcotée. Je savais très bien que sans Cavani, ça ne pouvait pas marcher. Bon. Parce que quand je prends seulement les attaquants de l'Uruguay qui ont déjà 50 sélections, par exemple Christian Stoani, vous vous rendez compte que le gars n'a marqué 4 buts.
Oui, mais il n'y a pas de complicité
mais
avec Suarez.
Mais c'est pas possible, il est papa.
Il joue jamais.
Mais oui, il a pratiquement jamais.
Inoffensif.
En tout cas, Antoine Grenier, vous nous parliez de ce calme de l'équipe de France, notamment de cette joie contenue. On va écouter Kylian Mbappé, que vous avez rencontré justement à la fin de ce match, parce que toute la concentration qu'il y a chez ces joueurs s'entend bien dans la déclaration de ce jeune Kylian Mbappé.
Je sais pas encore, j'ai pas l'expérience pour vous le dire, mais c'est vrai qu'on est un groupe très uni, on est sûr de ce qu'on sait faire, mais on sait qu'il y a encore du chemin. On a fait le plus long, mais il nous reste le plus dur, donc on est conscient que la marche est encore très longue. Vous n'avez pas trop le temps de vous attarder sur ce qui vient de se passer, tout de suite se concentrer sur ce qui arrive, et en l'occurrence c'est une demi-finale, donc c'est facile de se motiver.
Antoine Grenier, justement, cette non-joie ou cette joie retenue, on va entendre tout à l'heure, ils ont été un peu piégés par leurs réseaux sociaux, les joueurs à faire un peu la fête, mais c'était en fait une concentration parce qu'on pense à la suite de la compétition avant tout.
Oui, vraisemblablement, et on savait à ce moment-là que le client en demi-finale serait forcément une équipe de top niveau, que ce soit le Brésil ou la Belgique. Maintenant, on sait que c'est la Belgique, mais au moment de la sortie des vestiaires, oui, les Bleus n'étaient pas forcément, en tout cas n'ont pas donné l'impression d'être extrêmement euphoriques, comme ils avaient pu l'être contre l'Argentine. Et surtout, ils viennent de jouer une rencontre face à l'Uruguay qui est un peu un condensé de leur parcours jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on a retrouvé la maîtrise collective, la défense solide qu'on avait vue en phase de groupe, et on a vu l'efficacité offensive qu'on avait vue contre l'Argentine. Ils ont fait tout simplement le plein de confiance, à défaut de faire le plein d'euphorie des Français.
Oui, c'est ce qu'on pouvait noter. Alors celui qui quand même a partagé la joie des Bleus ce soir et qui est allé saluer le public, qui est allé aussi féliciter ses joueurs jusqu'au milieu de la pelouse, c'est Didier Deschamps qui emmène son équipe désormais plus loin qu'en 2014, et on va l'entendre, Didier Deschamps très heureux, lorsque vous l'avez entendu, très heureux eh bien, de ce parcours des siens.
C'est mérité par rapport au match qu'on a fait face à une belle équipe de l'Uruguay, mais on a été supérieur à cette équipe aujourd'hui en ayant beaucoup plus de maîtrise qu'au dernier match, notamment sur la deuxième mi-temps. Après, j'ai une équipe jeune, ils se sont déjà comportés en équipe, mais voilà, les exigences aujourd'hui sont plus élevées parce que la qualité de l'adversaire augmente aussi. Ça devient de plus en plus difficile. Donc évidemment, ne pas donner à l'adversaire, rien lui donner, surtout à une telle équipe parce qu'elle a l'habitude de prendre peu de buts. L'état d'esprit est là, il y a encore une bonne marge de progression, mais malgré la jeunesse, c'est pas qu'un défaut. On l'a vu en deuxième mi-temps où il y a eu quelques petites étincelles, des points chauds. On a su plutôt bien gérer. Et au-delà de la qualification, parce que j'avais 6 joueurs à un moment qui étaient sur le coup d'une suspension, finir avec tout le monde disponible pour la demi-finale, c'est quelque chose de bien aussi.
Marc, c'est la force du groupe de Didier Deschamps et surtout du sélectionneur de savoir s'adapter. C'est ce qu'on remarque durant cette compétition.
Bah, c'est surtout la force
d'adapter son groupe, hein, bien sûr.
Ouais, de toute façon, Deschamps a choisi son groupe du début jusqu'à la fin, parce qu'il y a des joueurs qui avaient un fort caractère et qui ne sont pas dans cette équipe. On se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart des joueurs sont au diapason et ils sont capables de gérer certains joueurs, d'être... on avait un petit peu peur par rapport à Tolisso. Finalement, Tolisso a répondu présent. Je crois qu'elle a su s'adapter. Encore une fois, moi, qu'il y ait pas d'euphorie, ça me dérange pas, parce que c'est vrai que face à l'Argentine, on s'attendait pas forcément à ce genre de choses, à marquer autant de buts. Donc on est dans l'euphorie. Là, par contre, on sait ce qu'il reste à faire. Faut aller au bout maintenant, parce que elle est réussie si on va au bout. Alors j'entendais déjà, oui, mais si c'est le Brésil, on est sûr de perdre. Si c'est la Belgique, c'est facile. Non, ça va être, les deux équipes auraient été très 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 difficiles à battre. Mais en tout cas, il a construit cette équipe autour de lui. C'est l'élément pour moi le plus important. Vous savez, on a toujours dit, ah, c'est l'époque Platini, c'est l'époque Zidane. Là, c'est l'époque Deschamps, qu'on le veuille ou non. Parce qu'il dit, ouais, c'est Mbappé. Non, c'est pas encore Mbappé aujourd'hui. C'est encore lui qui a la maîtrise. De démarrer face à l'Australie à 3 joueurs milieu de terrain, 2 défensifs, on se fait du souci. Sur ce match-là, pareil, il fait jouer Pogba d'un côté, Tolisso de l'autre, on se fait du souci. Puis on se rend compte que les joueurs sont bien dans leur case, chacun sont dans leur case et ils respectent les consignes du coach. Et ça, c'est super important aujourd'hui. Bravo Xavier, à lui en tout cas.
Xavier, Didier Deschamps.
Mais c'est l'artisan de cette équipe. J'allais dire même l'ingénieur,
mais oui,
c'est pas vraiment
l'architecte, un peu.
Voilà, c'est pas vraiment une découverte en fait, parce que quand on a suivi l'équipe de France 98, on sait que c'était déjà l'adjoint d'Aimé Jacquet à l'époque, donc
l'adjoint, mais il était quand même sur la pelouse,
mais il était aussi sur la pelouse, mais il était aussi en coulisses, hein, pour composer l'équipe et la liste. Donc aujourd'hui il est dans son rôle pleinement et il fort de cette expérience et de sa maîtrise technique, il endosse parfaitement ce rôle et les résultats sont là.
Rémi, Didier Deschamps, pour vous aussi, c'est le grand architecte de cette réussite.
Il s'en sort bien parce que là, c'était les Mendy et consorts qui étaient ses latéraux, mais là, c'est l'entraîneur quand même qui peut aller en finale de Coupe du Monde avec 4 défenseurs centraux. Parce que ce serait quelque chose d'exceptionnel.
Et ils sont bons, en plus. Les deux latéraux sont très bons.
Deuxième des choses, c'est qu'il réussit quand même à faire jouer des joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs. Ouais. Que ce soit Matuidi ou encore Pogba. Et moi, je devrais quand même dire que nous avons passé le temps à dire que Pogba avait un fort caractère, contrairement à ce qu'on dit, et que lui, il se prenait beaucoup la tête. Mais quand il fait une prestation de cette envergure, moi je trouve que c'est lui l'homme du match, parce que c'est 97 ballons qu'il récupère comme ça, c'est énorme, et il gagne 14 duels. Ça c'est du jamais vu depuis 98, un joueur n'a jamais fait autant. Et les passes sont terriblement aussi réussies sur les 76. Il aligne quand même dans le camp adverse plus de 60 passes. Ce qui signifie que moi, aujourd'hui, je profite pour que Pogba, qui a souvent été critiqué, qu'il soit aussi honoré, parce que pour une fois, il a totalement effacé Kanté. Pour une fois, il a ébloui au milieu de terrain. Pour une fois, il a été véritablement celui qui va au charbon.
Antoine Grenier, les joueurs sont rentrés à Istra. Là, maintenant, il reste 4 jours hein, seulement pour se reposer avant la demi-finale.
Oui, 4 jours, c'est relativement court quand on joue la Belgique et qu'il va falloir se mettre dans l'idée que on affronte une des équipes les plus performantes dans cette Coupe du Monde, parce que forcément sortir le Brésil, c'est une sacrée performance. Et donc les Bleus sont rentrés à Istra dès ce soir effectivement, et demain entraînement à partir de 17h au stade de Glebovets, 17h heure de Moscou bien entendu. Là ce sera pour les remplaçants, ce sera pour histoire d'entretenir un petit peu la forme physique des remplaçants, comme les Français ont fait d'ailleurs jusqu'ici, et les titulaires eux resteront vraisemblablement au camp de base. place pour soigner les petits bobos, pour récupérer, faire un entraînement léger, un décrassage comme on dit, et histoire de pouvoir préparer ce match qui va venir très très vite.
Non, et qui se déroulera à Saint-Pétersbourg où vous serez évidemment. Merci beaucoup Antoine Grenier d'avoir été en direct avec nous et à très bientôt donc.
Bonne soirée Annie.
Merci. À bientôt. Quelques mots sur cette demi-finale qui se profile. Xavier Barré, France Belgique.
On va avoir.
C'est pas forcément ceux qu'on avait attendus sur le parcours parce qu'on avait déjà eu beaucoup d'équipes d'Amérique du Sud. On avait eu le Pérou, l'Uruguay. On se disait on aura peut-être le Brésil. Finalement, ça sera nos voisins belges.
Mais justement, on va avoir deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Parce que déjà il y a quand même une proximité géographique qui fait qu'il y a une culture commune sur bien des points, aussi bien en ce qui concerne la formation des joueurs que l'héritage colonial avec des joueurs d'origine africaine dans les deux camps.
Exact.
Et ça je pense que c'est quelque chose qui intéresse nos auditeurs en particulier. Mais il y a aussi le fait que ce sont deux équipes qui sont constituées majoritairement d'expatriés. Aujourd'hui la quasi-totalité de ces joueurs sont en Angleterre, en Espagne, un peu en Italie,
c'est toutes les sélections aujourd'hui.
Non, pas l'Angleterre, c'est
mais
pas.
Mais l'Angleterre, tu sais bien que ça.
Pas l'Allemagne.
Il y a personne
peut-être
qui veut un joueur anglais, donc à part
Kane. C'est pas l'Allemagne. Donc, ça. Mais bon, c'est en ce qui concerne les pays européens, c'est particulièrement criant, aussi bien pour la France et surtout pour la Belgique.
Donc des équipes similaires.
Enfin, pour moi, ils ont rien de similaire. On a une équipe belge qui a la possession de balles, qui attaque la plupart du temps, qui se projette très vite. Et nous, on a français, on a eu 38 ou 39% de balles sur depuis le début de la Coupe du Monde. Et là, on se dit souci aujourd'hui en disant qu'est-ce qui va se passer. On a deux équipes qui attendent, qui refusent le jeu. Aujourd'hui, les Français ont été capables d'attaquer ou de balancer des flèches devant, comme l'a expliqué Rémi. Mais à partir de là, pour moi, la Belgique part un petit peu favorite parce que cette équipe-là est capable, on l'a vu encore une fois, de jouer en contre très très vite. Et nous, les Français, on essaie de jouer comme ça. Mais la possession de balle, je ne pense pas que nous, on soit capable de faire le jeu. Eux, ils ont des chefs d'orchestre. Nous, on n'a pas de chefs d'orchestre. Nous, on a des milieux de terrain qui sont des récupérateurs, qui sont des joueurs qui vont aller au charbon, comme a pu le faire Pogba aujourd'hui, comme va le faire Matuidi, comme va le faire Kanté. Et la Belgique a des créateurs. Donc, c'est à savoir si est-ce qu'ils vont sortir leurs créateurs pour mettre des gars qui vont aller au charbon, je ne pense pas.
Rémi, vous les voyez comment, vous, cette demi-finale?
Moi, je trouve plutôt que la France part avec un avantage. Pourquoi ? La Belgique a des failles défensives. Et la Belgique perd aujourd'hui son meilleur défenseur.
Meunier.
Meunier, 1m90, et il a muselé en 1 contre 1 Neymar. Et là, la Belgique
elle n'a pas... Elle le connaît bien en plus.
Voilà, la Belgique n'a pas de pièces de rechange. De telle sorte que ça va devenir un véritable casse-tête chinois. Et là, lorsque je vois par exemple des flèches comme Mbappé, ça peut faire très très mal. Parce que aujourd'hui, que ce soit Vincent Kompany, il n'est plus aussi rapide que ça. C'est la tenue, c'est parce qu'ils ont joué bas. Or, tout de suite, Marc vient de relever quelque chose, ils auront la possession. Contrairement au match contre le Brésil, c'est eux qui auront la possession. Donc, ils risquent de jouer avec un bloc un peu plus haut. Et là, ça peut faire très très mal avec les départs dans le dos de Mbappé.
Eh bien, on en reparlera évidemment de cette demi-finale qui se profile. Ça sera mardi prochain. Sachez que demain, il y aura en milieu d'après-midi eh bien un autre quart de finale qui opposera la Suède à l'Angleterre. Ça sera à Samara. Et puis, il y aura ensuite à Sochi, un Croatie-Russie. Et là, ça promet d'être très chaud. Les deux matchs seront à suivre sur les antennes africaines de RFI, bien entendu. Pour ce qui est de Radio Foot International, eh bien, nous, on va prendre... notre tapis volant et on va se diriger nous aussi vers la Russie pour s'installer à l'Institut français de Moscou où se dérouleront nos émissions que vous pourrez aussi suivre sur les ondes et évidemment en Facebook Live comme durant toute cette Coupe du Monde. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous ce soir et
bonsoir,
on se retrouve lundi prochain, on se retrouve de Moscou. Merci Rémi, merci aussi à Nicolas Benita qui était à la réalisation aujourd'hui, Pierre Guérin qui m'a aidé à préparer l'émission, Yann Bourdelat et Swell Kedir, ainsi que Cyril Etienne qui était là pour la réalisation et Jérémy Docteur. On vous dit bon week-end et à lundi.